Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, en ce jeudi de l'Ascension, nous voici arrivés au bout des 40 jours que le Seigneur a voulu pour établir son Église, transmettre ses dernières consignes, fortifier ses apôtres. J'espère que vous avez vécu ces 40 jours de Pâques comme cela, comme une fortification pour vous-même, comme contemplant encore notre Seigneur, apparaissant à ses disciples, afin de les fortifier et de les enseigner. Et voici qu'il est élevé au ciel. Alors évidemment, devant tous ses apôtres, stupéfaits certainement, qui le regardent monter au ciel, une apparition des hommes en blanc, des anges, des envoyés de Dieu. De toute façon, les apparitions divines sont difficiles à saisir et à expliquer. Qui leur dit cette phrase bouleversante et mystérieuse à la fois que je vous propose de méditer. Pourquoi regardez-vous vers le ciel? Le Seigneur reviendra comme vous l'avez vu partir. Si vous êtes un tout petit peu logique, vous y voyez là un paradoxe. Puisque les anges, les envoyés de Dieu, les hommes en blanc qui sont là, leur disent à la fois « Pourquoi regardez-vous vers le ciel ? C'est idiot, ça ne sert à rien. » Et ils leur disent « Il va revenir comme vous l'avez vu partir. Donc il faut regarder vers le ciel. » Il nous faut résoudre ce paradoxe qui est celui de la vie chrétienne. Nous avons les yeux levés au ciel et les pieds sur la terre. Il nous faut être comme le Christ, vrai homme et vraiment participant. Lui, il est vrai Dieu, nous pouvons être vraiment participants de la nature divine par les sacrements et la grâce de l'Église. C'est les deux points de mon plan. Levons les yeux vers le ciel et gardons les pieds sur terre. Levons les yeux vers le ciel parce que Jésus est monté au ciel. Mais c'est normal, il est Dieu. Il est monté lui-même. Alors me direz-vous, si vous êtes un lecteur attentif de l'Évangile, il faut l'être. Il est écrit « Il fut élevé au ciel ». C'est un passif divin. Mais oui, dans le Seigneur, il y a un éternel échange d'amour, de puissance, et le Père l'élève. Mais entre le Père et le Fils, c'est le même. C'est le même Dieu. Pas la même personne, mais le même Dieu. C'est pour ça qu'il est dit « Il fut élevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu ». Il retourne finalement là où il a toujours été, c'est-à-dire en Dieu. Tous les signes sont présents pour nous indiquer qu'il s'agit d'une action divine. Il y a des anges, des envoyés de Dieu. Il y a la nuée. Il y a l'action miraculeuse de cette élévation. Tout comme à la transfiguration, les apôtres, en tout cas Pierre, Jacques et Jean qui y étaient, et les autres, à qui ils n'ont pas manqué de s'en ouvrir, ont pu reconnaître cette apparition divine, cette élévation, comme finalement quelque chose de normal, le Seigneur au ciel, comme il l'a toujours été depuis le début du monde, depuis avant le début du monde, depuis toujours, il y retourne. Mais alors pourquoi a-t-il voulu que ses apôtres le voient monter au ciel ? Vous le savez, durant ces 40 jours après Pâques, il n'est pas resté vivre avec eux. Il leur est apparu sans cesse. Il leur est apparu de nombreuses fois, plus de 13 fois, nous disent les Actes et les Évangiles, à chaque fois pour les fortifier. Mais il n'est pas resté avec eux. Et donc, il aurait pu très bien ne plus apparaître et leur dire, bien maintenant, c'est la dernière fois que vous me voyez, je ne reviendrai plus. Alors, il l'a fait, mais il a voulu que les apôtres le voient monter vers le ciel. Voilà pourquoi il nous faut garder les yeux vers le ciel. D'ailleurs, les anges nous le disent, il va revenir du ciel, il va se réapproprier le monde quand celui-ci finira. Notre désir du ciel doit être grand, mais ce n'est pas tout, ce n'est pas simplement une espérance. C'est déjà la foi que là où est le Christ, nous serons. Car le Christ est la tête de l'Église. Et là où est passée la tête, le corps tout entier va passer. C'est ça la bonne nouvelle de l'Ascension. Là où il est passé, si je suis dans le Christ, si le Christ vit en moi, alors moi aussi je vivrai. C'est l'image de l'enfantement, mais vous le savez, même si vous, comme moi, vous manquez d'expérience en la matière, là où la tête est passée, on est sûr que le reste du corps va pouvoir passer. C'est ce qui est le plus compliqué. Alors le Seigneur a fait l'essentiel, la tête est passée au ciel, il est le chef de l'Église, caput, il est la tête de celle-ci. Cette Église qui vit, qui est le Christ, c'est le temps de vous redonner ma citation préférée, le Christ répandu et communiqué jusqu'à la fin du monde sur notre terre, comme le dit Bossuet, il est déjà au ciel. La tête du Seigneur, le chef de l'Église, est au ciel, avec tous les saints. Et nous, qui sommes intégrés au corps mystique du Christ, nous sommes ici, encore sur terre. Mais nous désirons le ciel, nous désirons vivre dans le Christ, c'est-à-dire vivre éternellement. Vivre déjà maintenant, notre vie éternelle n'est pas une espèce de mirage pour demain, après-demain, enfin pour quand je serai mort. Notre vie éternelle, c'est pour tout de suite. C'est pour maintenant. Voilà pourquoi les chrétiens ne peuvent pas attendre. Ils doivent vivre maintenant de la vie éternelle. Ils doivent vivre maintenant des sacrements. Ils doivent vivre maintenant la charité du Christ qui nous presse. C'est pas pour demain, c'est pour tout de suite. Parce que le Seigneur, en qui je vis, en qui j'ai été baptisé, eh bien, mon Seigneur est vivant au ciel. Et il est passé par là, alors moi aussi, je regarde vers le ciel. Gardez les yeux vers le ciel pour vous éviter de rester dans la matérialité du monde. Vous le savez, le monde nous appesantit sans cesse. Il n'est pas mauvais en lui-même, hein, il est sorti de Dieu ce monde. Et tout ce qu'on a inventé peut être tourné vers Dieu. Mais voilà, il est lourd. Et beaucoup des coopérateurs de notre ennemi, de la nature humaine, comme dit saint Ignace, vous encourage surtout à porter des œillères vers le ciel. Comme vous savez, les chevaux portent des œillères pour les empêcher de regarder à gauche et à droite, pour qu'ils n'aient pas peur. Notre monde tente bien de nous faire regarder uniquement par terre. Plein de bons conseils. Regarde par terre, regarde bien où tu mets les pieds, c'est pas idiot. Oui, d'accord, mais pour aller où ? Pour aller là où mon pied peut aller ? Ou est-ce que j'ai la capacité, enfant de Dieu, de savoir que mes pas, petit à petit, vont me porter jusqu'au ciel ? C'est quand même une autre vision que nous avons, nous les chrétiens, que les pauvres qui ne connaissent pas Dieu et qui regardent uniquement leurs pieds. Nous savons que nos pieds, auxquels il nous faut faire attention, doivent nous mener pas à pas, action après action, jusqu'à Dieu, car ils en sont déjà une coopération. Si vous marchez vers Dieu, chaque pas que vous faites est un pas divin. Si vous marchez ailleurs, dans des sentiers de perdition, ben vous marchez vers votre perte, vers le diable, et vous allez mourir. Voilà pourquoi il nous faut garder les yeux au ciel. Il nous faut désirer le ciel. Il nous faut savoir que ce monde n'a pas une fin en lui-même, qu'il est un moyen pour nous faire connaître Dieu, pour aller vers lui qui s'est donné à nous dans l'humanité. Voilà comment nous considérons le monde. Voilà pourquoi nous gardons les yeux vers le ciel. Nous avons une vision large du monde, en regardant et le ciel et la terre comme le Seigneur du haut de la croix. Nous ne voulons pas être des rats, des vers de terre, des taupes. Nous voulons avoir les yeux grands ouverts, regarder et le ciel et la terre. Voilà ce que cette ascension nous apprend. Garder les yeux grands ouverts vers le ciel. Mais il nous faut aussi garder les pieds sur terre. Et ce sont les consignes de notre Seigneur. Les consignes à ses apôtres, vous qui allez rester maintenant, eh bien c'est très simple, vous allez baptiser et vous allez annoncer l'Évangile. Voilà notre mission sur terre, le baptême et l'annonce du Christ. C'est très simple finalement, notre chemin est d'une simplicité déconcertante, il est parfois difficile, rude, mais sa modalité qui peut être compliquée, parce que le monde est compliqué, parce que nous sommes compliqués, mais le but est très simple. Et les moyens qui nous sont laissés sont très simples. Baptiser, annoncer le Christ, fête de l'apostolat. Le baptême reste essentiel. Le Seigneur est très clair en sa marque, vous l'avez entendu. Celui qui sera baptisé et croira, celui-là sera sauvé. C'est-à-dire celui qui va s'incorporer au corps mystique du Christ qui vient de passer au ciel. Alors, pour y passer, il faut y aller. Si vous avez un bateau pour aller d'une rive à l'autre et que vous ne savez pas nager, eh bien, vous allez vous noyer. Et donc, pour aller au ciel, il nous faut prendre le Christ, cette barque de l'Église. Il n'y a pas d'autre solution. Et ce n'est pas une invention d'avant, une invention du Moyen-Âge, un truc qu'on a inventé. C'est le Seigneur qui parle. Celui qui sera baptisé et croira sera sauvé. Il faut croire, ce n'est pas une action magique. Et il ne suffit pas de mettre de l'eau sur la tête d'un enfant. Il ne suffit pas de lui vouloir du bien. Il faut vouloir en faire un chrétien, le christifier, l'incorporer au corps mystique du Christ, en faire un frère de Jésus-Christ, une sœur de Jésus-Christ, pour en faire vraiment un enfant de Dieu. Voilà ce qu'est le baptême. Il nous faut le désirer sans cesse. C'est un manque de foi, c'est toujours lié le baptême et la foi. C'est un manque de foi qui nous fait penser que le baptême serait secondaire. Souvent on s'interroge, parce qu'on s'interroge toujours en se posant des questions parfois utiles, parfois inutiles. Et alors on se demande, on refait l'histoire à l'envers, faut-il baptiser les petits-enfants? Mais regardez l'histoire de l'Église, évidemment. Et quand les apôtres se sont convertis, ils étaient tous adultes. Alors on a baptisé des adultes. Et puis, et très rapidement, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Quand les chrétiens ont eu des enfants, ils se sont dit, est-ce qu'on les baptise? Est-ce qu'on attend plus tard qu'ils demandent le baptême, qu'on les baptise, etc. Ben non, on va leur donner ce que nous sommes, parce que c'est nos enfants, donc on va les baptiser. Voilà, ça fait des siècles que ça marche très bien. Et d'un seul coup, dans nos temps modernes où il faut toujours tout remettre en question, nous sommes les enfants du doute, il n'y a pas de mystère, et bien on se repose la question, oh là là, mais est-ce qu'il faudrait vraiment baptiser les enfants? Parce que quand ils sont grands, ils comprendront mieux, ils réfléchiront mieux, etc. Mais oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Et d'ailleurs, je vous suggère de laisser les enfants choisir. Ne leur donnez pas de nom. Parce que peut-être que le nom que vous allez leur donner ne leur plaira pas. Alors, appelez-les machin, truc, couillonne, couillon, bien. Mais quand tu auras 16 ans, 17 ans, bah, tu te choisiras un prénom. Bien entendu, c'est logique. C'est tellement évident. Et puis, ne leur parlez pas. Ne leur parlez pas aux enfants, parce qu'il ne faut pas leur parler, parce que peut-être qu'ils aimeront parler chinois. Alors, parlez-leur, ne leur parlez surtout pas votre langue, vous risqueriez de les déformer, de les influencer, de pas leur donner ce qu'ils désiraient. Alors vous leur parlez pas, vous les tapez, vous leur parlez avec les pieds, et puis quand ils seront grands, vous les enverrez à l'école, quand ils auront 20 ans, et à ce moment-là, ils apprendront la langue qu'ils voudront. C'est débile! C'est débile de ne pas baptiser les enfants! C'est pas toujours facile, je sais. Les parents ne sont pas toujours d'accord, ne peuvent n'être pas de la même religion, alors ça peut arriver. Et je suis ravi de baptiser des enfants plus grands. Je suis ravi de baptiser des enfants de 5 ans, de 10 ans, de 16 ans. Je suis toujours content de baptiser, bien entendu. Mais vous qui voulez le meilleur pour vos enfants, les meilleurs habits, la meilleure nourriture, les meilleures écoles, les meilleurs tout, la meilleure santé, bah donnez-leur le baptême. Parce que, ou alors c'est que vous ne pensez pas. La foi et le baptême sont liés, c'est que vous ne pensez pas que le baptême, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est parce que vous n'en vivez pas. C'est parce que votre foi s'est refroidie. C'est parce que vous êtes en train de mourir. Alors, il faut revivre. Voilà. Vivez vous-même et faites vivre. Donnez la vie, donnez le baptême. Le baptême, celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Alors, évidemment, celui qui ne croira pas, est déjà condamné. Et il faut prendre la parole du Seigneur dans toute sa profondeur. C'est celui qui ne veut pas croire, hein. Celui qui non vere crede, celui qui ne croit vraiment pas. C'est-à-dire celui à qui on a vraiment annoncé le Seigneur, celui à qui on a vraiment expliqué qui c'était. Et beaucoup sont incroyants parce qu'on ne leur a pas annoncé Jésus. Et pas seulement ceux qui vivent à l'autre bout du monde, dans une, je sais pas quoi, dans la jungle, il y en a encore, mais pas beaucoup, j'en connais, au Bangladesh. Mais pas seulement ceux-là hein, à qui on n'a pas annoncé Jésus-Christ. Des gens autour de nous, faites poser des questions à ceux qui sont dehors, hein, puisque maintenant c'est déconfiné, quand vous êtes dehors, vous pouvez rencontrer des gens, parlez-leur. Hein. Même si vous avez un masque, on peut se parler, parce que je sais bien qu'il faut être prudent, mais enfin, ne vous distanciez pas trop les uns des autres, hein, vous allez finir tout seul. Et donc, demandez-leur, mais c'est qui Jésus? Vous connaissez? Oui, vaguement, un type, je sais pas. Il y a des gens qui disent, bon, je connais pas. Personne ne connaît. À part vous, bien sûr, qui êtes chrétien, qui vous embêtez à suivre la messe à la télé. Je sais que c'est pénible, compliqué. Mais voilà, mais vous savez qui c'est, alors on y va. Mais les gens ne savent pas qui est Jésus. Hein. Un personnage historique, peut-être, à côté de Vercingétorix. Et c'est dans la même période, la guerre des Gaules, voilà, ça doit être par là, il y a eu un Jésus là. Oui, c'est vrai, mais nous savons qu'il est le Christ. Et ces pauvres gens qui ne savent pas qui est le Seigneur, qu'il est venu pour les sauver, pour les aimer, pour les racheter, ben, il faut que vous leur disiez. C'est l'apostolat. Il nous faut faire de l'apostolat pour que les gens puissent sauver leur âme. Alors bien sûr, si sans leur faute, ils ne connaissent pas Jésus, ils peuvent quand même se sauver. Parce que Jésus, c'est Dieu, c'est le bien lui-même. Et s'ils arrivent à découvrir dans leur conscience, c'est déjà un don de Dieu, ce qu'est le bien, la voie droite, eh bien, ils sauveront leur âme. Mais ils le sauveront plus sûrement, plus certainement, en étant plus proches du Christ. Ce n'est pas parce qu'il y a un salut pour les incroyants qu'il ne faut pas leur annoncer la foi. C'est comme si vous vouliez aller jusqu'à la Lune et que vous ne donniez pas les moyens aux gens d'y aller. Ah, le Seigneur peut toujours les élever, il fait ce qu'il veut, le bon Dieu. Prendre une autre analogie, parce que ce n'est pas possible d'aller jusqu'à la Lune, mais on peut aller de Dublin jusqu'à New York à la nage. Bah, c'est plus compliqué. Hein. Le mieux, si vous aviez un bateau, c'est de faire monter les gens dans la barque de la foi pour les emmener plus sûrement là où ils veulent aller. C'est un bien que l'on donne. L'apostolat toujours et partout. Il nous faut vouloir le bien pour tous. Voilà, le Seigneur vient d'être élevé au ciel. Nous voulons revivre cet événement essentiel de la vie du Christ. Comme tous ces événements, celui-ci particulier, il nous faut le vivre avec confiance, en ayant les pieds bien sur terre. Saint Ignace de Loyola rêvait d'aller à Jérusalem pour voir la pierre d'où le Seigneur s'est élevé au mont des Oliviers. Ce mont des Oliviers, ce lieu mystique où il y a beaucoup de souvenirs de notre Seigneur. Tout en bas, là où il a prié le jeudi saint avant d'être arrêté. Au milieu de la colline, là où il a prié sur Jérusalem, Dominus flevit, et il a pleuré sur ceux qui ne voudront pas croire. Et puis en haut, la chapelle de l'Ascension, où on y voit encore la pierre d'où notre Seigneur a pu partir. Il nous faut être attachés au ciel par la terre. La foi n'est pas une élucubration, n'est pas quelque chose de désincarné, c'est tout l'inverse. La foi en Dieu doit nous ramener sur terre pour y faire le bien que nous avons à faire, comme les apôtres durant cette vie. Préparons-nous à l'annoncer immédiatement, à le donner par des paroles et par des actes. Qui a inventé, c'est le diable, le diviseur, qui a inventé de séparer la charité de l'apostolat? Plus exactement, qui a inventé de séparer les œuvres bonnes de l'annonce de Jésus? C'est diabolique. Le Seigneur n'a fait que tout le contraire. Il a dit et il a fait. Il a fait et il a dit. C'est ça les miracles, des paroles et des actes. Eh bien, nous aussi, ne nous laissons pas duper par ce monde. Il nous faut œuvrer des actes de charité. Il nous faut annoncer le Christ. C'est tout un, car le Seigneur est lui-même celui qui annonce ce bien à venir et ce bien réalisé. Prions pour que l'Esprit Saint maintenant nous soit donné plus intensément en cette année où nous l'avons attendu d'une manière plus forte peut-être, afin que nous soyons vraiment ceux qui vont baptiser, annoncer le Christ jusqu'à la fin des temps, jusqu'au bout du monde, afin que nous soyons vraiment les successeurs que les apôtres commencent avec le Seigneur dans l'Église. Ainsi soit-il.